Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Et nous irons pour commencer ce journal au Mozambique, une semaine après le passage du cyclone Idai. Le pays compte plus de 240 morts, des dizaines de milliers de réfugiés sauvés des eaux. Le Brexit ne se fera pas le 29 mars prochain. L'Union européenne propose à Londres deux nouvelles dates et met le Parlement britannique devant ses responsabilités. Nous écouterons le président français Emmanuel Macron à ce propos. Et puis nous vous expliquerons pourquoi le Rassemblement national ne va pas présenter de candidat à la mairie de Paris. Garde-t-il des force et de l'argent pour les élections européennes, peut-être. Le passage du cyclone Idai au Mozambique a fait au moins 242 morts. Le pays fait face à une crise humanitaire sans précédent depuis une semaine maintenant. Une large zone de ce pays est encore envahie par les eaux. Des dizaines de milliers d'habitants sont en situation d'extrême précarité près de Beira, la deuxième ville du Mozambique. Notre envoyé spécial Adrien Barbier s'est rendu à Dondo, au nord de Beira, où une école sert d'abri de fortune pour des dizaines de sinistrés.
Gesticulant à l'arrière du camion, sont empilés des sacs de riz. Ce père de quatre enfants s'offusque de n'avoir eu que du pain. Dans cette école transformée en camp d'urgence à Dondo, la distribution alimentaire est chaotique. Les sinistrés ont faim, les secouristes sont dépassés et tout le monde se bouscule pour avoir un peu de soupe. Maria Antonio, mère de deux enfants, essaye sans succès de récupérer du soja.
C'est le premier jour aujourd'hui qu'on reçoit de l'aide. Mais ils n'en donnent pas à tout le monde, ils donnent seulement à ceux qui sont dans les salles. Ceux qui sont dehors, ils n'ont rien.
Des milliers de sinistrés se sont réfugiés à Dondo après le passage du cyclone Idai il y a une semaine. Certains sont hébergés dans des familles, mais la plupart ont été accueillis dans des salles de classe. Dans celle de José Macuiza, 27 ans, ils sont 69 à dormir à même le sol.
À cause du cyclone, toutes nos maisons sont détruites et on n'a pas d'autre endroit où aller. Et on n'a rien pour recommencer la construction.
D'après les humanitaires, les difficultés d'accès compliquent l'arrivée de l'aide alimentaire. Une semaine après la catastrophe, la route reliant Beira au reste du Mozambique est toujours coupée. Il faudra donc encore plusieurs jours avant que tout le monde ait quelque chose à manger.
Adrien Barbier à Dondo, Mozambique, pour France Culture. Les dirigeants européens ont décidé hier soir à Bruxelles d'accorder au Royaume-Uni deux options pour un report du Brexit au-delà du 29 mars. En cas de rejet au Parlement britannique du texte négocié par Theresa May, la sortie se fera le 12 avril, un délai de 15 jours qui peut aussi permettre au Royaume-Uni de décider de rester un peu plus longtemps dans l'Union européenne et pour cela de participer aux élections européennes. Si le Parlement britannique accepte en revanche l'accord négocié, alors la sortie se fera le 22 mai prochain. Depuis Bruxelles, hier et après la première journée de sommet européen, le président français Emmanuel Macron s'en est expliqué. Écoutez-le.
Nous devons nous mettre en situation d'apporter une réponse au vote du peuple britannique allant vers un Brexit et respecter celui-ci. La deuxième chose, nous devons le faire de manière ordonnée. Puis le troisième point, nous devons lever l'incertitude avec des règles claires. Et donc nous avons apporté une réponse à la demande britannique, mais une réponse qui est protectrice de nos intérêts et qui permet à l'Union européenne de continuer à fonctionner. 12 avril, 22 mai.
Et la première ministre britannique Theresa May a répondu à Bruxelles hier. Le Parlement britannique, dit-elle, a des choix clairs devant lui. Elle n'envisage pas que le Royaume-Uni prenne part aux européennes prévues à la fin du mois de mai. Pendant ce temps, dans de nombreux pays, la campagne pour les élections européennes s'organise. Aux Pays-Bas, des élections régionales ont donné le ton cette semaine. Parti de rien, un nouveau parti nationaliste, europhobe, le Forum pour la démocratie, est devenu la première force politique du pays, devançant la droite libérale du Premier ministre qui n'a obtenu que 12 sièges, soit un siège de moins que le Forum de la démocratie. Une percée spectaculaire dans un contexte marqué par l'attentat de lundi dernier à Utrecht pour lequel la qualification terroriste a été retenue. Retour sur cette victoire de l'extrême droite avec Antoine Moutot.
Devant les caméras de télévision, le chef du nouveau parti nationaliste Forum pour la démocratie, Thierry Baudet, jubile.
Net als al die andere landen van onze
comme dans tous les autres pays du Nord, nous sommes ruinés par ceux qui devraient justement nous protéger.
We worden ondermijnd door
nos universités, nos journalistes, mais aussi et surtout ruinés par nos gouvernants. Mais plus pour longtemps.
Thierry Baudet, 36 ans, est résolument en faveur d'une sortie des Pays-Bas de l'Union européenne. Il est farouchement opposé à l'immigration. C'est aussi un climato-sceptique affiché. Représentant d'un nationalisme bontain et bourgeois, il aime également faire parler de lui sur les réseaux sociaux, comme la fois où sur Instagram il a posté une photo de lui complètement nu au bord d'une piscine. Ce lointain descendant de Français ou de Wallons, selon les sources, a beau parler un français parfait et avoir un immense portrait d'Alexis de Tocqueville dans son bureau, il considère la France comme un pays du Sud, au même titre que l'Italie, l'Espagne et le Portugal, et qui, selon lui, pèse trop sur l'économie et les décisions des Pays-Bas. Lui, en tout cas, devrait désormais peser beaucoup sur la politique néerlandaise. Le gouvernement perd sa majorité au Sénat et Forum pour la démocratie a également phagocyté une partie de l'extrême droite Geert Wilders, avec qui il s'était pourtant dit prêt à gouverner un jour.
On pouvait croire que le conflit catalan avait été mis en sourdine depuis l'ouverture du procès contre des dirigeants indépendantistes. Il est, au contraire, ce conflit reparti de plus belle ces derniers jours. Une histoire de ruban jaune qui envenime les relations entre Madrid et Barcelone. Le président régional Quim Torra risque même d'être destitué parce qu'il refuse de respecter la neutralité des bâtiments officiels, Mathieu de Taillac.
Liberté d'expression ou violation flagrante du devoir de neutralité des administrations publiques. C'est le dernier conflit qui oppose le gouvernement régional catalan aux autorités espagnoles. Depuis l'arrestation des dirigeants indépendantistes il y a un an et demi, le ruban jaune est devenu un symbole de solidarité avec ces derniers. Ce même ruban a été affiché sur la plupart des bâtiments qui dépendent du gouvernement catalan, mais à 5 semaines des élections générales, la commission électorale a ordonné à l'exécutif de Quim Torra de les retirer. Pour ce dernier, c'était un dilemme. S'il obtempérait, il avait l'air de se soumettre à Madrid et d'abandonner ses camarades. Mais si Torra refusait, alors il risquait d'être traîné devant les tribunaux. Finalement, le président régional a voulu jouer au plus fin. Il a remplacé une pancarte en faveur des prisonniers par une autre banderole où l'on pouvait lire le même texte, mais où le ruban n'était plus jaune, mais blanc. Ces subtilités chromatiques n'ont pas du tout fait rire la commission électorale. Cette dernière a donné l'ordre à la police régionale de retirer les symboles. Elle a aussi ouvert une procédure interne contre Torra. Et surtout, elle a saisi le parquet pour qu'il poursuive Quim Torra pour désobéissance. Le délit est passible de peine d'inéligibilité. Comme son prédécesseur, Carles Puigdemont, Torra pourrait donc être destitué si bien sûr il est encore en poste d'ici la tenue de l'éventuel procès.
Les Algériens seront mobilisés aujourd'hui pour un 5e vendredi consécutif. Des manifestations sont prévues un peu partout dans le pays pour demander toujours le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Après la décision du Sénat de saisir le parquet contre 3 proches d'Emmanuel Macron dans l'affaire Benalla, Richard Ferrand a décidé d'annuler un déplacement commun à Lille prévu aujourd'hui avec Gérard Larcher, le président du Sénat. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, l'a annoncé hier, sorte de boycott également du Premier ministre Édouard Philippe qui lui ne s'est pas rendu aux questions au gouvernement au Sénat hier. L'exécutif dénonce un coup politique du Sénat contre le pouvoir. Par crainte des violences, les manifestations des Gilets jaunes sont interdites à Marseille demain samedi par la préfecture. Hier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a promis l'impunité zéro face aux casseurs. Le Rassemblement national renonce à la mairie de Paris. Le parti de Marine Le Pen ne présentera pas de liste aux municipales de 2020 dans la capitale, mais il ne sera pas non plus totalement absent, puisque le RN a choisi de se rallier au libéral Serge Federbouch, le fondateur du Parti des Libertés. Une stratégie d'union assez inédite, Rosalie Lafarge.
À l'époque du Front National, on voulait des candidats partout. L'ère du Rassemblement National rebat les cartes, au moins à Paris.
C'est-à-dire que le Rassemblement National va privilégier une approche d'union.
Seule façon, ou presque, pour espérer peser vraiment, selon Valran de Saint-Just, le trésorier du parti et président du groupe RN à la région Île-de-France, avait obtenu un peu plus de 6% des voix au premier tour des dernières municipales à Paris.
C'est vrai que, notamment à Paris, où la gauche est toute puissante et où la droite classique n'a jamais voulu vraiment faire attention à nous, nos scores sont faibles et c'est difficile. C'est vrai que c'est la ville capitale où il faut y être. Mais je pense que c'est important aussi à Paris de montrer que nous sommes capables, au Rassemblement national, de parler et de s'allier avec des personnalités comme Serge Federbouch qui ne sont pas du tout adhérents du Rassemblement national. Et si on additionne leur score et les nôtres, on passe largement les 10% dans un certain nombre d'arrondissements.
Et c'est le seuil pour accéder au second tour. En misant sur cet énarque libéral, ancien conseiller à l'urbanisme de Bertrand Delanoë, le RN poursuit sa dédiabolisation et s'offre aussi le partage des frais de campagne, pas négligeable pour un parti toujours à la recherche de fonds pour financer sa course aux européennes.
La journée s'annonce globalement ensoleillée sur l'ensemble de la France ce vendredi. Il fait ce matin 9 degrés à Besançon, 11 à Paris, 14 à Bayonne, 18 degrés déjà à Marseille.